התשובה, c'est, comme son nom l'indique, c'est un retour. Pourquoi est-ce qu'il faut revenir en arrière? C'est un état. Le Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui est dans un certain état. Il est dans un état duquel il doit sortir, en quelque sorte. Mais qu'est-ce qu'il a mis dans cet état? Évidemment, c'est le fait qu'il ait fauté qui entraîne cette situation dont il faut sortir. On a l'habitude de regarder à Yom Kippour qu'est-ce qu'on fait par rapport à la tshuva en particulier. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait vidouille. Le Rambam dit la mitzvah de la tshuva, c'est le vidouille. Vidouille, c'est une confession. C'est-à-dire, c'est une déclaration. On fait une déclaration. Alors, des déclarations, on en a parlé, on en fait effectivement, par exemple, quand on apporte du bikurim. Il y avait une déclaration qui accompagnait le bikurim, dans lequel on c'est une espèce de vidouille aussi, à ce moment-là. Et on a l'habitude, on considère que le vidouille, ça consiste à mentionner les fautes qu'on a faites, et puis faire tshuva, ça veut dire cesser de les faire, regretter de les avoir faites et décider de ne plus les faire. Donc, le vidouille tel que nous, on le vit en général, c'est en quelque sorte l'énoncé d'un... C'est une liste de fautes qu'on a faites et dont on dit que, voilà, ben, je regrette de les avoir faites et je voudrais ne plus les faire. Et je m'engage, je vais prendre des mesures pour ne plus faire ces fautes. Et maintenant, dans le Nefesh HaChaim, il explique un peu autrement. Le Nefesh HaChaim explique qu'en réalité, quand on fait une faute, alors il se passe quelque chose qui fait que on n'est plus vraiment à sa place. Et c'est pour ça qu'il faut faire teshuva, ça veut dire qu'il faut revenir à sa place. La teshuva, ça consiste à revenir à sa place. Alors, il faut essayer d'expliquer un peu plus. Et pour ça, on va suivre un peu le Mahaler du Nefesh HaChaim. Nefesh HaChaim explique que Adam Harishon, quand il a été créé de telle sorte qu'il ne pouvait faire que ce qu'Hachem voulait qu'il fasse. C'était évident qu'il allait, il pouvait ne faire que le bien, en fait. On va appeler ça le bien. Mais alors, comment se fait-il qu'il ait fauté? Alors, le problème, c'est que Akadosh Baruch Hu a créé quelque chose qui s'appelle Ra, qui s'appelle le mal, Boré Ra. Akadosh Baruch Hu a créé le mal. Mais le mal qu'Hachem a créé était un mal qui existait à côté d'Adam Harishon, en quelque sorte. Sous forme, si vous voulez, sous forme du Nahash. le fameux serpent. Le serpent c'était une créature complètement distincte de Adam. Adam n'avait rien à voir avec lui, absolument rien. Lui, il est ce Nahash, c'est le mal. Mais le mal en question, il était là, il existait, il a été créé. Mais il avait un pouvoir d'essayer de séduire l'homme, mais le séduire de l'extérieur, de là où il était. Mais a priori, Adam Arishon, il n'était pas intéressé, pas du tout intéressé par ce que lui proposait le Nahash. Quand je dis Adam Arishon, c'est pas seulement Adam Arishon, c'est aussi Chava. Ils sont pas intéressés. Alors comment se fait-il qu'ils aient fauté? Alors, la stratégie du Nahash, ça a été de parler avec Rava. Il lui a parlé. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'il lui dit, il dit quelque chose qui est faux. Il dit, vous n'avez donc pas le droit du tout de manger les fruits du jardin en question. Elle corrige, elle dit pas du tout. On peut manger les fruits de tous les arbres. Mais il y a un arbre dont on ne peut pas manger les fruits et qu'on ne peut pas toucher même. Le fruit de cet arbre, puisque c'était interdit, ça ne les intéressait pas du tout. Ça n'intéressait ni Adam, ni Chava, ce fruit de l'arbre. Il y avait une possibilité. Il était libre, Adam. Il avait la prira, il pouvait manger. Mais ça ne l'intéressait pas. Le Nefesh HaRam, il a une drôle d'expression. Il dit, pour Adam, manger du fruit de cet arbre, c'était une possibilité, mais exactement comme pour un être humain, il y a la possibilité d'entrer dans le feu. C'est possible, effectivement, mais personne ne va le faire. On n'a pas une envie d'entrer dans le feu. Donc, on ne comprend pas vraiment ce que dit le Nefesh HaRaim, parce que dans le Passouk, c'est écrit que Chava, elle a vu le fruit de cet arbre-là, et il lui est apparu comme étant désirable, comme étant bon, comme étant beau, comme étant porteur d'ouverture, etc. Mais Nefesh HaRaim, il dit exactement le contraire. Comment est-ce que Nefesh HaRaim peut dire le contraire de ce qui est écrit dans la Torah, Mefourash? Ça n'a rien à voir avec le feu. Elle voit quelque chose qui est hautement désirable. Quand HaKadosh Baruch Hu a créé le mal, il a créé le mal sur un principe qui s'appelle Zé le Umat Zé, dont on a déjà parlé. Zé le Umat Zé, ça veut dire il y a, si vous voulez, autant de degrés de Kedusha qu'il y a de degrés de Touma. Zé le Oumadze. Parce que si ce n'était pas Zé le Oumadze, alors il n'y a pas de Bechira. Parce que si le bien était à l'évidence beaucoup plus intéressant que le mal, qui va aller choisir le mal? Et si le mal était à l'évidence beaucoup plus intéressant que le bien, mais qui va aller choisir le bien? Donc, pour qu'il y ait un choix possible, il faut évidemment que les deux choses soient balancées, quoi, que ça soit en équilibre. Ça, le zé, le omadze. Il y a 50 degrés, si vous voulez, ou 49 degrés de pureté, de kedusha, et aussi 49 degrés d'impureté. Alors, bon, alors, ça veut dire qu'ils sont exactement complètement équilibrés. Non, il y a une grande différence. La différence est la suivante. La Kedusha, c'est d'une certaine manière une forme de vie très intense. Bon, puisque la Kedusha, c'est ce qui nous permet de nous approcher d'Hachem. Hachem étant la source de la vie, plus on s'approche, plus la vie est intense, plus on est proche. C'est-à-dire, en fait, cette intensité de vie, on peut la traduire par, dans ce domaine-là, il y a, par exemple, ce qu'on appelle la volonté d'Hachem. À cet endroit-là, il y a Ashrat Ashrina, il y a la présence divine. Vous avez une forme de c'est quoi quand on dit « il y a présence divine » C'est parce qu'il y a une vie intense, il y a une intensité de vie, si vous voulez, une qualité de vie particulière. On a vu déjà souvent qu'il y a plusieurs sortes de morts. Vous vous souvenez, on a parlé de... la mort sociale, il y a la mort économique. Par exemple, Yaakov Avinu, quand il a été dépouillé par Eliphaz sur l'ordre d'Esav, il est économiquement mort. Et cette situation, cette mort de Yaakov, là, c'est cet état-là qui l'a amené chez Lavan et qui a mis tout ce processus en marche, en quelque sorte. Ça veut dire que Yaakov était bien économiquement mort. Il était vraiment mort économiquement. Mais néanmoins, il était vivant. Il y avait des aspects de vie qui étaient d'une totale intensité. Simplement, à certaines choses, il était mort. Le Metzora, qui est chassé de tous les camps d'Israël, il est socialement mort. Personne ne peut lui parler. D'accord ? Donc, c'est une forme de mort. Un aveugle, il est aussi mort à une certaine forme de vie, quoi, sociale aussi. Mais donc, quand on dit que quelqu'un est mort partiellement, et peut-être même totalement, ça ne veut pas dire qu'il est complètement mort. Il y a des degrés de vie encore. Comme il y a des degrés de mort, il y a aussi en même temps des degrés de mort et degrés de vie. Les Chachamim disent que les Rechaim, même quand ils sont vivants, ils sont appelés Metim. Ils sont appelés morts. Pourquoi ? Parce qu'ils sont spirituellement morts. Et les tzadikim, même quand ils sont physiquement morts, ils sont appelés chayim. Parce qu'ils sont dans la maba, parce qu'ils sont dans une forme de vie très élevée. Donc tout ça, ça indique que La Kdusha, effectivement, c'est la forme de vie la plus puissante, la plus intense. Mais le Ra, le mal, c'est une forme de. C'est la forme de vie des Rechaïm, c'est-à-dire, c'est comme s'il n'y avait que la survie, si vous voulez. S'il n'y avait que le nefesh qui fonctionne. Le ruach, la neshama, c'est mort. C'est-à-dire, il n'y a pas de présence divine, il n'y a pas d'étincelle de vie vraiment. Il y a une espèce de survie, quoi, une espèce de, comme un légume, quoi, si vous voulez. Mais il y a un domaine, le Nahash, il avait un domaine, c'est un certain lieu. Ava, ultimement, elle est allée dans ce lieu-là. Et Adam aussi. Ils sont allés dans ce lieu qui n'a pas vraiment de vie. Mais ils ont amené leur vie à eux. Donc, le mal est devenu quelque chose de vivant en utilisant la vie de celui qui est allé dans le domaine du mal. Dans le domaine du mal, le mal par lui-même n'a pas de vie, mais l'homme, l'être humain qui cède au mal, qui lui donne sa vie. Et donc, le mal, quand l'être humain a cédé au mal, alors il lui donne de la vie, mais c'est sa vie qu'il met dedans. Donc, ça veut dire que la vie de l'homme qui fait le mal, cette vie-là, elle est allée ailleurs. Elle n'est plus à sa place. Elle est dans le domaine du mal. Et elle fait vivre le mal, en quelque sorte. Donc, c'est le moi de cette personne-là qui fait du mal quelque chose de vivant, en fait. La neshama est entrée dans le domaine, dans le reshout du mal. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait du mal, c'est pas simplement qu'on a fait du mal. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'action seulement. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'une transformation. C'est-à-dire, j'ai perdu une forme. J'ai perdu une partie de ma force de vie, en quelque sorte. Et donc, il faut ramener la tchouva, c'est ramener ma force de vie qui a été détruite par la faute. Il faut la restaurer à sa place. C'est ça la tchouva. C'est un travail de restauration à faire. Il faut arriver à retrouver l'état normal qui s'appelle Menuchat HaNefesh, c'est-à-dire une certaine sérénité, un certain état apaisé en fait. faut comprendre que par la faute, mon intériorité, ma vie intérieure, ma force de vie vraiment, elle s'en est allée. C'est-à-dire, elle est partie et elle n'est pas au bon endroit. C'est-à-dire, le mal, Rabbi Yocham Leibovitch, il disait que le mal, le Yetzerara, si vous voulez, c'est une metziut shel imetziut. C'est-à-dire, c'est une réalité de non-réalité. On peut dire, c'est ce que j'ai dit, je crois, disons, tel que je le comprends, je dirais que c'est justement cette forme de vie. Dans le Yetzirah, c'est une forme de vie, en fait. On peut dire que c'est presque. On pourrait dire peut-être que c'est la vie animale, en fait. Le degré de vie animale. Donc, en quelque sorte, c'est l'homme qui fait tout ça. Parce que la chose, elle n'a pas de vie réelle, si ce n'est que l'homme. Donc, c'est ça qu'on dit souvent, que le mal, d'une certaine manière, il n'existe pas de la même manière que le bien. À un certain niveau, le mal n'existe, vous vous souvenez, on a dit au nom du Gaon, n'existe que sous forme d'absence de bien. Au sens où, pendant que je fais le mal, je n'ai pas fait le bien. C'est-à-dire, ma force de vie n'était pas disponible pour faire le bien, puisqu'elle était occupée ailleurs, à faire le mal. C'est ça la gravité du mal, finalement. Plus que les gestes, les actions, effectivement, qui sont destructrices, évidemment, mais le gros morceau, en fait, ce qui est absolument fondamental, c'est cette destruction de soi-même qu'on fait en fautant. On se détruit d'une certaine façon. On pourrait penser que c'est fichu, quoi. Et le recet d'Hachem, c'est qu'il y a une possibilité de tshuva. Il y a une possibilité de récupérer ma force de vie, de récupérer mon âme, en quelque sorte, qui est au mauvais endroit, et de la ramener à sa place. Dans la ligne du Nefesh HaChaim, qui donne, comme vous savez en tout cas, cette importance fondamentale à l'homme, c'est-à-dire HaChaim a fait de l'homme quasi-divinité. L'homme, il est capable de donner la vie au mal. En fait. Le mal, il est là, il a des couleurs, il a des odeurs, il présente des choses intéressantes. Mais il a pas, mais c'est pas la vie, c'est pas de vie. Il lui manque la vie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est le processus. Il y a eu un processus qui a permis à Chava d'entrer dans le domaine du mal. Tout à coup, le mal, elle lui a conféré. C'est elle qui a fait que le mal était séducteur. Réellement séducteur qu'il était, c'était beau, bon, etc. Comment c'est arrivé? Elle n'avait rien à voir avec le mal. Pourquoi tout à coup elle lui a donné ce pouvoir, en quelque sorte? Comment c'est possible? Alors, on va les regarder d'un peu plus près, ce que les Chachamim disent comment ça s'est passé exactement. comme je vous ai dit, le Nahash, il a commencé par lui dire quelque chose de faux. En quelque sorte, il l'a obligé à réagir. Il a dit quelque chose qui était faux, qui était peut-être même, elle pouvait penser, c'est un crime de Hachem de dire une chose pareille sur Hachem, que Hachem nous interdit de manger, etc. Donc elle l'a corrigé. Non, pas du tout. Alors, il y a un petit problème, c'est que au lieu de dire seulement on n'a pas le droit de manger du fruit de cet arbre, là, du dat tovara, on n'a pas le droit d'en manger. Elle a dit on n'a pas le droit d'en manger, on n'a pas le droit non plus de le toucher. Alors, on va d'abord regarder une des choses qui sont dites dans le Midrash. Le Nahash, quand elle a dit ça, il a vu la faille. Le Nahash savait qu'il n'y avait pas d'interdit de toucher. Il savait très bien que l'interdit de toucher, c'est une barrière que Adam et Chava se sont mises. Alors, est-ce que c'est Adam qui ne l'a pas dit à Chava ou peu importe. En tout cas, c'était vu comme une barrière. Pour être sûr de ne pas en manger, on s'est interdit de toucher. Alors le Midrash dit que le Satan, c'est la même chose, le Malach HaMavet, le Satan, le Yetzer Hara, il a poussé Chava contre l'arbre en question. Et du coup, il l'a touché. Et il lui a dit, tu vois, tu l'as touché, il ne t'est rien arrivé. Donc tout ça, tout ce que Hachem a dit, qu'on n'avait pas le droit de s'être fait, ce n'est pas vrai. C'est seulement que Hachem ne veut pas que vous mangiez des fruits de cet arbre-là, parce qu'à ce moment-là, vous deviendriez quasiment des divinités. Et lui, il veut l'exclusivité. Et donc, il a expliqué à Chava, il lui a montré, tu vois, ça tient pas debout toute cette histoire. Et du coup, il était devenu pensable de se représenter comment ce serait si on touchait, si on touchait. Ça, il y a une chita qui dit qu'il l'a poussé, elle a touché. Alors, peut-être je devrais terminer de dire que c'était pas, en vérité, ça fait partie des stratégies du Yetzirah. Normalement, c'est pas une démonstration. Parce que personne n'a dit que de toucher l'arbre, c'était comme de toucher une ligne à haute tension. C'est vrai qu'une ligne à haute tension, si vous la touchez, que vous la touchiez volontairement ou qu'on vous ait poussé, ça fait le même effet. Mais personne n'a dit que l'interdit de toucher, c'était un interdit de ce type-là. Peut-être que l'interdit de toucher, c'est un interdit de toucher volontairement. Donc elle aurait pu lui dire, mais moi, je n'ai pas touché. Tu m'as poussé, mais je n'ai jamais voulu toucher. Et donc, ta démonstration, elle tient pas. Mais la stratégie du Yetzer Hara, c'est quelque chose dont on a parlé quand on a parlé des Meraglim. C'est qu'au lieu de laisser le fait tel qu'il était, dans sa nudité, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas touché volontairement, il a tout de suite donné une explication. Cette histoire que les Meraglim, au lieu de parler des faits, on les a envoyés pour explorer et donner un rapport, ils ont interprété. C'est le problème de la bouche qui a précédé les yeux, quoi. Dans la P, la lettre P qui est avant le Aïn. Dans l'alphabet, normalement, c'est Aïn P. Et eux, Kadmou, P, la Aïn. Pourquoi ? Parce qu'ils ont expliqué. Donc, c'est toujours, c'est ce qu'on voit aujourd'hui tous les jours. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'information. Il n'y a pas de fait. Donc, tout ce qu'on nous donne, c'est toujours des explications. C'est toujours des commentaires. Il n'y a que des commentaires. C'est-à-dire, on présente une situation, au lieu de présenter la situation telle qu'elle est, on la présente comme voilà, ça, la preuve que c'est comme ci ou la preuve que c'est pas comme ça. Et donc, effectivement, il lui a pas laissé le temps de réfléchir. Il a tout de suite donné l'explication, comme si cette explication était la seule explication valable. Bon, ce n'était pas le cas. Et si elle avait pu répondre, si elle avait eu le temps de réfléchir, de répondre, son truc n'aurait pas marché. Bon, ça, c'est une explication. Il y a une autre explication qui est que le Satan, il lui a parlé et il a réussi à faire en sorte qu'elle pense comme il le lui montrait, comme il lui a dit, si tu mangeais, voilà ce qui se passerait. Tu deviendrais quasiment une déesse, quoi, quasiment. Et donc, quelque part dans sa tête, le processus de manger et de s'imaginer quelles seraient les conséquences de ce manger à exister. Et c'est parce qu'il a existé dans sa tête qu'il a été possible qu'il se réalise. Il faut faire naître la possibilité de la transgression en disant tout le bénéfice qu'on aurait si on transgressait. Personne ne prendrait de la drogue s'il ne savait que les conséquences terribles que ça peut avoir. C'est bien parce qu'il se représente, on l'a aidé, il se représente la jouissance que ça lui donnera de consommer cette drogue. Sinon, il ne la consommerait pas. Et donc, tout le problème, ça a été de faire exister la possibilité. Non, comme une hypothèse. Bien sûr qu'on ne va pas le faire, mais si je le faisais, alors, et c'est ça, quand tout à coup, dans la tête, le fruit est devenu désirable, le fruit est devenu beau, est devenu bon. C'était seulement dans une hypothèse. Mais ensuite, l'hypothèse, elle s'est réalisée. Il y a des fois, des situations où quelqu'un fait une démonstration, il fait une hypothèse, puis ensuite il fait comme si cette hypothèse, c'était la vérité. Ça m'avait frappé dans le bouquin de Monod, au début. Il fait une hypothèse et puis après il fait comme si c'était la réalité. Bon, c'est peut-être comme ça qu'on devient prix Nobel, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est ça. Ça veut dire que faire exister la chose dans la tête. Et si c'est comme ça que la neshama, elle peut nous quitter, en fait, et aller dans le domaine du mal, aller donner de la vie au mal. Cette chose-là, il n'y avait pas de vie, mais c'est elle qui a apporté la vie. C'est dans sa tête que le fruit a eu cette qualité qu'elle a énoncée. Ce que dit Nefesh HaChaim quand il dit que ce serait équivalent à entrer dans le feu, c'est avant, c'est comme ça. Le feu, il a des belles couleurs, etc. Il chauffe, il a des qualités. Mais c'est rien, parce que c'est totalement destructeur. C'est la même chose. Ce que Nefesh HaChaim veut dire, c'est une forme de vide, en quelque sorte. Le feu, c'est en réalité un vide. Mais c'est un vide qui, quand tu entres, ben il va devenir, c'est un combustible. Donc tu vas faire de ce feu, il va vraiment, il va augmenter, il va, etc. Il va avoir d'autres couleurs, etc. Il va, Donc, il faut comprendre que la tshuva, c'est un processus de restauration de ma neshama. Il faut la ramener à sa place. Et a priori, le processus qui a fait qu'elle est sortie de sa place, c'est ce processus qu'il faut réutiliser pour la ramener à sa place. Par conséquent, il faut se représenter la situation dans laquelle on sera quand on aura fait tshuva. Il faut se représenter parce que c'est le seul moyen pour que ma neshama bouge. Il faut que ça soit attrayant. Pour la faire bouger, elle bouge. Donc, il faut fabriquer dans sa tête pour pouvoir faire tshuva. Il faut se représenter ce qui se passera quand ma neshama sera à sa place. Donc, il y a tout un problème d'arriver justement à faire naître toutes ces situations, d'abord dans ma tête, pour qu'ensuite elles puissent se réaliser. Donc la tshuva, ça va être justement un travail qui ne consiste pas simplement à dire je regrette tel et tel acte, mais le vidouille sur les actes, si on peut parler comme ça, il ne peut se faire que quand on aura bien compris ce que ça veut dire que d'avoir fauté, d'avoir compris qu'en fautant, on s'était détruit. Pour essayer de comprendre ce que c'est cette destruction, c'est pas obligatoirement, peut-être c'est plus facile à comprendre quand ce ne sont pas des actes eux-mêmes, simplement, directement. Mais on pourrait imaginer peut-être il faut le dire en termes d'intérêt. Où est mon intérêt? C'est-à-dire, où est-ce que je m'investis plus exactement? Donc, où est-ce que je m'investis? Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des forces, toutes sortes de kochot hanefesh. Il y a des situations où notre regard est faussé parce que on a des images dans la tête, des images fausses. C'est-à-dire que on le dit sur certains enfants ou sur certains délinquants, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte de ce que c'est que de tuer. Parce qu'ils sont nourris d'images où les gens tuent comme ça, l'extrême violence. Et puis, aussi d'autres images dans lesquelles, on travaille avec un dans des situations fictives dans lesquelles on a plusieurs vies. Ok, j'ai perdu une vie, mais j'en ai une autre maintenant. Donc voilà, si on tue, ben voilà, j'ai perdu une vie. Peut-être certains enfants et peut-être même d'adultes. Bon, il y a une autre vie, quoi. Le regard, par exemple, il y a ce qu'on appelle les canons de la beauté, par exemple. Il y a la beauté, les canons grecs de la beauté. Ok. Du coup, si une personne n'est pas conforme à ces canons-là, ben, on va dire qu'elle n'est pas belle. Mais si vous regardez les représentations primitives, etc., les corps humains qui étaient présentés, corps de déesse, etc., elles ont pas du tout, elles sont pas du tout conformes au canon de la beauté grecque. Si vous regardez les Perses ou si vous regardez les uns ou les autres, c'est pas du tout ça. Mais à partir du moment où on est nourri par des informations, par des maîtres qui enseignent ou que ce soit des films, que ce soit Internet, que ce soit les images de la rue, etc., qui valorisent un certain type de beauté, eh ben, on a maintenant une idée de la beauté. Et par conséquent, on est un peu prisonnier, c'est-à-dire que mon regard, ma liberté de regarder ce qui est réellement beau, c'est du côté du mal parce que ça s'est investi dans la beauté telle qu'elle est présentée, avec tous les contextes que vous connaissez bien. Ou les rapports humains, effectivement. Ils sont complètement faussés parce qu'on est nourri, parce qu'on a des images de ce que doivent être les rapports humains. Bon, et puis on va enseigner. Aujourd'hui, on enseigne à l'école primaire qu'effectivement, de savoir si on est un garçon ou une fille, c'est optionnel. C'est une option. À des petits-enfants, on leur inculque qu'on n'a pas le droit de dire qu'il n'y a que deux, ou qu'on est ou bien une fille ou un garçon, on peut être autre chose, ou on peut changer. Toutes ces choses-là, elles laissent des traces. Ça veut dire que maintenant, notre neshama, notre façon de regarder les choses, elle est complètement faussée. On est investi, si on peut parler comme ça, du mauvais côté. En général, c'est le côté du mal. Aujourd'hui, on peut passer son temps à regarder des compétitions. Ah, c'est extraordinaire, tout le travail qui a été fait par des athlètes, par ceci et cela. Mais Hachem ne nous a pas donné cette capacité-là pour regarder ce genre de compétition, de ce genre d'effort, mais pour faire des efforts dans la Torah, dans l'étude, dans les mitzvot. Et donc, pendant ce temps-là, en quelque sorte, le temps qu'on a passé à cela, quelque part, non, ben on a détruit une partie de notre sensibilité, de notre capacité à savoir vraiment quel est le bon usage de telle ou telle force d'âme qu'Hachem a mise en nous. Et la tshuva, ça va être d'aller récupérer ça. Récupérer, ça veut dire quoi récupérer? C'est-à-dire se représenter Quel est l'usage conforme à la Torah de toutes ces forces qu'Hachem nous a données, de toutes ces énergies, de tous ces dons qu'Hachem nous a donnés, et pour les mettre au service d'Hachem, en fait. C'est-à-dire les mettre à leur place. J'ai donc mis, si on fait comme ça, la personne elle a mis son intérêt à un mauvais endroit. C'est bien d'avoir ce genre d'intérêt, mais tu l'as pas mis au bon endroit. Et le problème, si vous voulez, c'est que il ne suffit pas de ne plus le faire. Parce que quelque chose a été détruit. Il y a une destruction. Si vous voulez, il y a une trace. Ne serait-ce que, sous la forme dont on a déjà parlé, que pendant tout ce temps-là, tu n'as pas fait le bien. Pendant tout ce temps-là, cette force d'âme qu'Hachem t'a donnée, tu l'as utilisée. Tu ne l'as pas utilisé pour le bien. Ultimement, c'est ça. C'est vrai que tu l'as utilisé pour le mal, mais bon, ça c'est OK, il va falloir. Mais à un certain niveau, en quoi est-ce que c'est tellement important? C'est important parce que tu n'as pas fait le bien, et donc tu ne t'es pas vraiment construit, tu n'as pas développé, tu n'as pas vraiment utilisé les kohot qu'Hachem t'a donné. Et du coup, comment on va faire maintenant pour revenir? Il faut réparer. C'est pas simplement on cesse. OK, maintenant je vais plus m'investir dans ce domaine-là, mais je vais m'investir. Non, mais pour pouvoir s'investir là maintenant, il faut trouver des bonnes raisons de s'investir. Donc il faut aller sur le modèle de ce que Rava a fait, il faut se représenter qu'est-ce qui va se passer si je m'investis de la bonne manière. Et il faut que ceci devienne désirable, en fait, pour que ça se réalise effectivement. D'une certaine manière, ça servirait à rien de faire les choses sans qu'elles viennent de l'intérieur, en quelque sorte. Sinon, ce serait des singeries. C'est copier. Tu vas copier. Alors, c'est possible que en copiant beaucoup le bien, on arrivera à faire un peu de bien. Mais la tchouva, c'est pas ça, en fait. La tchouva, ça va être justement d'aller se représenter pour que ça soit vraiment vivant. Se représenter, ce soit ça qui m'attire. Se représenter comment ce sera quand j'aurai remis mon intériorité, ma neshama, en place. Et après, quand on a compris effectivement comment ce serait, etc., à ce moment-là, on peut faire un vidouille et dire, voilà, oui, j'ai fait telle et telle faute, je ne reviendrai plus parce que j'ai compris que cette faute-là, elle m'a détruit. Et j'ai compris qu'il a fallu faire tout un travail. Si vous voulez, à Yom Kippour, au temps du Beit HaMikdash, c'est le Kohen Gadol qui faisait tout le boulot. Le Kohen Gadol, il courait toute la journée, Il avait plein de choses à faire. Et en particulier, c'est lui qui faisait le vidouille, la confession, pour tout le monde. Alors, il le faisait en trois temps. D'abord, il le faisait pour lui et sa famille, ensuite pour tous les Kohanim, et ensuite pour tout le peuple. Et c'est ce que nous disons à Moussaf de Rosh Hashan, de Yom Kippour. On raconte ce que faisait le Kohen Gadol. Et le peuple, il était à l'extérieur, ils attendaient que la languette, qui était rouge, et qui elle blanchisse pour montrer qu'Hachem avait pardonné. Et après, quand il sort, quand le Kohen Gadol sortait, alors c'était la fête. Un jour de fête extraordinaire. Un Yom Tov hors du commun. Mais c'est le Kohen Gadol qui faisait. Mais qu'est-ce qu'il disait, le Kohen Gadol? Le Kohen Gadol, il ne disait pas Shamnu, Bagadou, etc., dans tout l'ordre alphabétique, etc. Il disait trois choses. Il disait au nom des Bnei Israël, Hatou, Avou, Pachou. Chet, Avon, Pesha. C'est en parlant de croissance de la gravité de la faute. Il disait seulement, ils ont fauté. Ils ont fauté gravement, très gravement. Pardonne-leur. Parce que d'abord, il faut comprendre qu'on a fauté, ça doit se traduire par j'ai fauté et donc je me suis détruit. C'est ça l'important, c'est qu'il faut arriver à travailler là-dessus. Et pour comprendre ce que je me suis détruit, il faut comprendre ce qui aurait dû être si je n'avais pas détruit. Alors voilà comment ça serait se représenter ce fruit qui est beau, qui est, etc. Comment ça devrait être? La Gemara, elle dit, vous savez que un des grands problèmes du clan Israël, en Eretz Israël, c'est le problème de la pluie. Je vous ai déjà dit, ça commence avec Adam Arishon, etc. Et le problème de la pluie, Eretz Israël a besoin de la pluie. Et donc, on a besoin de doit se tourner vers Hachem pour demander la pluie. Et il y a tout un traité de la Gemara qui s'appelle Ta'anit, qui dit quelles étaient toutes les procédures qu'on mettait en œuvre quand il n'y avait pas de pluie. Quand il n'y avait pas de pluie, c'était la famine. Et donc, on jeûnait, bien entendu, et on priait, etc. Et la Gemara dit, rapporte, que Rabbi Yehuda, quand il fallait prier pour la pluie, c'était les taniot ou comme à Yom Kippour, on enlève les chaussures. Et Rabbi Yehuda, il commençait à enlever ses chaussures et la pluie tombait déjà. Et Rava dit, un Amora, il dit, Rabbi Yehuda, il enlevait ses chaussures et la pluie tombait. Et nous, on peut enlever nos chaussures et prier, prier, crier, etc. Ça bouge pas. Et pourtant, nous, on l'aime beaucoup plus qu'eux. Eux, leur limoud était très restreint par rapport au nôtre, dit Rava. Mais alors c'est incompréhensible. On est meilleur qu'eux dans l'étude, mais du point de vue de notre relation avec Hachem, ça ne marche pas. Hachem, il ne nous répond pas. À lui, il lui répond. À Rabbi Yehuda, il lui répond. Et à nous, il ne répond pas. Enfin, pas de la même manière, en tout cas. Il dit, ça veut dire que Rachmana liba bae, la Torah, elle veut le cœur. Le cœur, il faut l'entendre, comme quand on dit en français, faire les choses de tout son cœur. C'est-à-dire, c'est un investissement complet. Alors, ça veut dire que Rava, il pensait que les Amoraïm, les grands Amoraïm, nos grands maîtres, par rapport au Tanaïm, Rabbi Yehuda, comme si eux, ils faisaient pas les choses avec le cœur, quoi. C'est-à-dire, on prenait pas les choses suffisamment à cœur, suffisamment au sérieux. Ça veut dire, normalement, le monde, il est fait de telle sorte qu'on peut avoir un rapport avec Hachem qui est tel que quand on enlève les chaussures, il pleut. C'était pas tout le monde. Il y avait donc des maîtres dans ces générations-là, un maître, il enlève ses chaussures et il pleut. Et cet investissement-là, on va dire, ben nous, on n'y est pas. On ne sait pas le faire. Visiblement, on ne sait pas le faire. Mais c'est juste pour qu'on sache la puissance de la tfila, la puissance du rapport que l'être humain est capable d'avoir avec Hachem. Hachem nous a donné cette capacité-là. Nous, on est, si eux, bon. Mais malgré tout, il y a dans toutes les générations, il y a des gens qui ont fait un travail tellement puissant qu'effectivement, on voit bien que quelque part, ils ont ce rapport avec Hachem. Ils ont un rapport, si vous voulez, de sérénité avec Hachem. Ils sont complètement sereins. Totalement en confiance et totalement donc sereins. Pas par bêtise, mais parce que ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. On a dit pendant la guerre que le Rav de Brisk, il a fui, il était toujours très 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 soucieux, etc. Et puis un jour, il était là complètement à un certain endroit, à un moment donné, complètement serein. On lui a demandé, mais comment ça se fait? Il a expliqué que pourquoi est-ce que je m'agite? Parce que je me demande, est-ce que j'en fais assez? Mais là, dans cette situation, je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais faire et que les choses ne dépendent plus de moi. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend d'Hachem. Je n'ai aucun souci. Je suis dans les mains d'Hachem. Tant que je pense que je peux faire quelque chose encore, alors je veux être sûr d'en faire assez. Mais quand je vois clairement que voilà, on est coincé ici, on ne peut pas aller là, on ne peut pas aller là, je suis coincé ici, je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire. Bon, ça veut dire que maintenant, voilà. Donc, le rapport normal, quand on a fait ce qu'il fallait faire, c'est un rapport d'extrême proximité avec Hachem. C'est-à-dire, ma neshama est à sa place. Toute mon intériorité, là, les choses sont à leur place. Mes centres d'intérêt sont au bon endroit. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est dans cette direction de, il va falloir faire le vidou, qui est la mitzvah de Yom Kippour, mais auparavant, il faut se demander, dans ce processus de tshuva, il faut essayer de comprendre que la faute que j'ai faite, c'est pas seulement j'ai fait une faute, mais cette faute, elle m'a détruit, d'une certaine manière. Je ne suis pas ce que je devrais être. On pourrait dire, bon, alors, t'es détruit, les carottes sont cuites, c'est terminé, c'est raté. Non. Il y a une mitzvah de tshuva. C'est une mitzvah presque incompréhensible. Bon, parce que si tu penses qu'il y a une réalité, que quelque chose est détruit dans le monde, dans les mondes, par la faute, comment se fait-il qu'on peut réparer? C'est pas du tout évident qu'on puisse réparer. pourrait dire non. Alors, il y a des situations qu'on ne peut pas vraiment réparer. Et donc, ça veut dire, bon, il va falloir vivre avec ce handicap, en quelque sorte. Mais en général, on peut pratiquement toujours faire tshuva. Mais la tshuva, elle n'est réelle que si on s'investit totalement dans la tshuva, c'est-à-dire qu'on prend pleinement conscience de ce qui est détruit et pleinement conscience que je ne pourrais pas, je ne peux rien faire par moi-même, si ce n'est que Hachem m'a donné la possibilité de faire tshuva. Et pour que la tshuva fonctionne, pour que les choses se réparent en quelque sorte, ben, il faut faire ce qu'il faut pour cela, et c'est ce qu'on a dit avant, c'est il faut se remettre dans la situation, il faut dans sa tête imaginer, ok, voilà, je me remets dans la bonne situation, et alors à ce moment-là, se représenter comment ce serait si j'étais effectivement dans la bonne situation, et à ce moment-là, ça me donnera de l'énergie pour me mettre dans cette bonne situation. Ce sera possible. C'est une question, là, ou bien c'est oui. L'humorce là. Oui.
Non, c'est une question.
C'est une question.
Justement, c'est parce que ça touche à une question que je voulais vous poser sur cette idée de la représentation. Parce que vous avez dit tout à l'heure que quelqu'un qui fait tshuva, c'est quelqu'un qui a été vers le rat et qui ne suffit pas faire les choses après parce qu'on n'est pas des robots ou des automates, mais qu'il faille se départir de ce rat et donc se représenter ce que pourrait être, alors donc je sais pas, on pourrait l'appeler Tov ou je ne sais pas,
ouais.
Se rappeler, se représenter, mais comment se représenter ce qui, pour celui qui a été Valera, n'existe pas. C'est-à-dire, il ne peut se représenter que ce qu'il connaît. Donc, ce qu'il connaît...
C'est pour ça qu'on a une Torah. La Torah, elle décrit.
Okay.
Elle décrit ce qui est possible. C'est vrai, ça vient de la Torah. Ça nécessite la Torah. Mais la connaissance n'est pas suffisante. Mais la connaissance, c'est fondamental. Alors, chacun à son niveau, chacun avec les représentations qu'il a, avec ce qu'il en connaît, avec ce qu'il en a entendu, etc. Bon, ça vient aussi de la connaissance de la façon dont certains maîtres se conduisaient, etc. Mais bon, c'est pas facile de... La tshuva, c'est une opération extraordinaire, mais pas facile. Si vous voulez, bon, la mitzvah, c'est de faire un bidouille, mais pour que ce bidouille, il ait un sens, il suffit pas de dire, ok, là, ici, j'ai mangé un truc qu'il fallait pas manger, j'ai parlé à un moment dans la tfila où il fallait pas parler, j'ai humilié telle et telle personne, j'ai marché sur les pieds de l'autre, etc., donc je ferai plus. Je regrette, je ne ferai plus. C'est vrai, mais je n'aurais pas dû. Je regrette, je ne ferai plus. Oui, c'est vrai, il faut regretter. Il faut faire, mais il faut comprendre que la faute, elle a eu un impact. Ce n'est pas simplement, voilà, j'ai fait une faute et puis maintenant je ne ferai plus, quoi. Mais il y a eu un impact. Si vous voulez... On le voit très bien, par exemple, dans les relations interhumaines. Quand on a, si vous avez fait de la peine, si vous avez humilié quelqu'un, vous avez cassé quelque chose dans la relation. Si vous prenez pas conscience, il suffit pas de dire on est de nouveaux copains, comme les petits enfants à l'école, t'es pas ma copine, t'es de nouveau ma copine. Je veux dire, d'accord. Mais on a passé l'âge, quoi. Et donc, il faut comprendre qu'on comprend bien dans les relations interhumaines, on comprend facilement. Mais en réalité, chaque fois qu'on transgresse, on se fait du mal à soi. Se faire du mal à soi, c'est justement si ma neshama n'est pas là, elle est au mauvais endroit, ça veut dire que bon, je ne peux pas faire les choses. J'ai besoin de ma neshama pour m'élever, elle n'est pas là, elle n'est pas disponible. Un jour, j'ai entendu mon maître qui expliquait à quelqu'un qui disait que, bon, j'ai une fatigue de faire ceci ou cela, etc. Mon maître lui a dit, écoute, mais ce à quoi tu devrais réfléchir, c'est qu'il se peut qu'un jour dans ta vie, tu éprouves le besoin de prier pour quelqu'un. Tu pries pour tes enfants, tu pries pour la guérison, tu pries, bon. Et à ce moment-là, tu te dis, ouais, je ne peux pas prier parce que qui suis-je avec tout ce que j'ai fait, je ne peux pas me présenter devant Hachem même. Peut-être qu'il faut réfléchir avant de faire des bêtises, de savoir ce que ça casse. Ça va casser quelque chose. Et à un moment ou à un autre dans ta vie, tu auras peut-être besoin. Mais qui est-ce qui n'a pas besoin ? Il y a toujours besoin un jour ou l'autre. Et qui sait ? Tu ne l'as pas fait. Et à ce moment-là, tu te diras, ah, c'est vrai. J'aurais quand même dû le faire. C'est vrai que maintenant, tu te dis, oh, c'est pas grave, fais pas. Et un jour... Et je pense que c'est un raisonnement très simple, si on peut parler comme ça. Mais bon, c'est peut-être pas pour ça qu'il est mauvais. C'est-à-dire, il s'agit de construire une relation avec Hachem. C'est ça le privilège du clan Israël, le fait qu'on ait le droit de prier. C'est pas évident qu'on ait le droit de prier. Parce que qui tu es pour prier ? Tu te tiens devant Hachem, mais... La posture normale de quelqu'un devant Hachem, c'est à terre, quoi, complètement. C'est-à-dire, disparaître. Non, tu te tiens debout. Je me tiens debout parce qu'Hachem m'a dit qu'il fallait me tenir debout. Et j'ose prier parce qu'Hachem m'a donné la mitzvah de prier. Sinon, je ne pourrais pas prier. Vous pouvez aller chez le président de la République et commencer à lui dire je voudrais ça, je voudrais ça. Bon, de toute manière, vous n'arriverez même pas devant lui. Donc, c'est des choses, par exemple, l'exemple là de. Tu regardes la compétition, tu es extraordinaire, etc. Mais bon, c'est vrai qu'on peut, on peut dire, tirer une leçon de certaines choses. Tu regardes bien que suivant comment tu mets tes pieds, ça vaut même pas la peine de renvoyer la balle au tennis. T'as déjà perdu. Si l'autre il joue bien, t'as perdu. T'as mal mis tes pieds. T'as pas la force de frapper la balle, donc t'as déjà perdu. C'est même pas la peine de l'envoyer. C'est un peu comme les maîtres du zen là qui s'opposent. Ils se mettent l'un en face de l'autre et puis au bout d'un moment il y en a un qui a perdu. Je veux dire. J'imagine, il a dans sa tête il a commencé à comprendre ce qui se passerait s'il perdait quoi. Donc, ça s'est réalisé. Il savait que ça allait se réaliser. Je ne sais pas si c'est ça. On n'a pas besoin de passer à l'acte, parce que des fois, c'est tout un travail intérieur. Mais nous, en général, on a fait des actes. Mais les actes, effectivement, tout est réflexif. C'est-à-dire, en fait, les actes agissent sur nous. On fait les choses, mais ça agit. Et comment ça agit ? Ça détruit quelque chose chez nous. Ça détruit ou ça construit, hein, parce qu'il y a des actes positifs.
Est-ce qu'on peut essayer de revenir sur sur ce miracle, cette grâce, plutôt la grâce d'ailleurs que le miracle, que nous donne Hachem de faire tshuva. Parce que c'est pas, enfin, je veux dire, il y a pas d'exemple dans le monde où on repêche comme ça, tout est détruit, on voit bien des êtres, et nous avons peut-être été à un moment donné nous-mêmes détruits. Cette destruction, elle est quand même très largement vécue dans le monde, voilà, par le clan, mais par aussi par l'humanité. Comment est-ce possible, avec le din qui est celui quand même de la Torah et de Hachem, qu'on puisse
Je vais vous répondre. Les Chachamim, ils ont pensé comme vous que c'était impossible. Il y a un fameux texte qui dit que tu présentes Nefesh Achotat, quand quelqu'un a fauté, qu'est-ce qu'il peut faire? Et on a demandé à la sagesse, à l'intelligence, même y compris à la Torah, etc. Et personne n'a donné de solution. L'un disait bon, qu'il meurt, qu'il débrasse le plancher, etc. Et Shalou l'Hachem, on a demandé à Hachem, Hachem a dit, je veux que tu fasses tshuva. Donc on voit bien de ce texte-là que c'est impensable, ni la prophétie, ni même, dans la Torah, la mitzvah de tshuva, elle n'est pas dite explicitement.
Non.
D'accord, donc ça veut dire, c'est même pas pensable de cette manière-là, quoi. Alors, ils ont résolu, il y a une façon de résoudre le problème. J'ai enseigné ça il y a très très longtemps, en fait. Il y a un chazal qui dit que la tshuva, elle a été créée avant le monde. Ça veut dire que le monde a été créé, si vous voulez, dans un environnement de tshuva. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante. Vous savez, je ne sais pas exactement dans quel cas, mais juridiquement, des fois, on est obligé de... ce qu'on dit, ça... je confirme et je signe, quoi. Donc, je vais commencer la formule.
Je persiste et signe.
Persiste et je signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu persistes et tu signes. Tu signes, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Persiste, ça veut dire? Ça veut dire que d'une certaine manière, dire de je persiste, ça voudrait dire j'ai déjà dit la chose, mais je ne l'ai peut-être pas dit de façon aussi définitive que ça. Et c'est pour ça que je dois dire je persiste. J'y reviens, j'ai bien réfléchi une deuxième fois et maintenant je signe. Ça veut dire que la première fois, c'était pas assez, c'est un peu trop léger, ça fait pas le poids. Il faut persister pour signer et signer. Et donc, l'idée, c'est comme ça, c'est qu'en réalité, le fait que le monde a été créé dans la tshuva, dans un bain de tshuva, si on parle comme ça, ça vient dire qu'en réalité, les actes des hommes ne sont pas définitifs. Nous, nos actes sont soumis à une acceptation. Voilà, j'ai fait les choses. Mais en réalité, la tshuva, elle dit, ok, ben je n'assume pas. C'est en disant, finalement, mon acte, il n'était pas définitif. Pourquoi? Parce que Hachem a dit d'emblée, les actes des hommes ne seront pas définitifs. C'est ça que ça veut dire de créer le monde dans la tshuva. Donc, réponse à votre question, ça veut dire que si on n'avait pas créé le monde dans la tshuva, c'est impossible de penser. On est obligé d'imaginer que le monde a été créé de telle sorte que ce soit possible, c'est-à-dire de dire que mes actes ne sont pas définitifs. Et on dit par exemple que comment est-ce que les actes peuvent être vraiment définitifs? En fait, les seuls actes qui sont vraiment définitifs, ce sont des actes qui sont faits par des Talmidei Chachamim, c'est-à-dire par des gens qui connaissent complètement la situation. Quand tu agis, la plupart du temps, tu ne connais pas la situation. Tu ne connais pas, tu t'es obligé de te fier à ce que celui-là dit, etc. On ne connaît pas. Et par conséquent, on peut toujours, à la limite, la Torah elle te dit, écoute, ça, ce n'est pas bien. Alors, tu l'as fait, mais bon, ce n'est pas bien. OK, alors si tu prends conscience que ce n'est pas bien, tu peux te dire, OK, ce n'est pas définitif, je n'assume pas, je change. Je change et à la limite, je peux changer de deux manières. Je ne fais pas ce que je ne signe pas, donc j'assume pas ce que j'ai fait. Mais je peux même faire plus. Je peux renverser le sens de ce que j'ai fait. Aller à 180 degrés de là. J'étais dans le mauvais chemin, je vais dans le bon chemin. Ça, on dit ça. Bon, alors, ça nécessite encore qu'on en discute, mais ça s'appelle Tshuva Meira ou Tshuva Me'ahava. Tshuva Meira, par crainte. Alors, effectivement, j'assume pas. Tshuva Me'ahava, cette situation-là que j'ai vécue, à laquelle j'ai donné de l'énergie dans le mauvais sens, je reprends cette situation et je lui donne la même énergie dans l'autre sens. Et donc, la faute devient, c'est la situation, la faute devient mérite. Et ça, c'est évidemment possible que si dès le départ, on a dit que les actes n'étaient pas définitifs. Parce que si mes actes sont définitifs, alors c'est fini. J'ai fait, c'est fini, on ne peut pas revenir en arrière.
Oui, mais dans un certain sens, est-ce qu'il n'y a pas un risque, à contrario, que l'homme se déresponsabilise, se dit « bon, bah, mes actes ne sont pas définitifs, j'ai toujours la possibilité de faire tshuva, la tshuva a été créée…
Oui, » Vous avez raison, la Gemara, elle dit effectivement, elle dit « mais fais tshuva un jour avant ta mort ».
Oui, mais on ne sait pas quand on va mourir, c'est ça le problème. C'est ça.
Donc, il faut faire tshuva tout le temps. Tu ne peux pas dire, oui, j'ai la possibilité. Oui, tu as la possibilité, mais tu n'es même pas sûr. Tu vas y arriver.
Mais, excusez-moi, à propos de la tshuva donc, qui existe avant le monde, et le monde qui est pris, en fait, dans un environnement où la tshuva, de tshuva, c'est-à-dire dans cette espèce de dimension de tshuva, il y a le monde. Est-ce que c'est pas la représentation même du chet d'Adam Harishon, parce que il a fait tshuva, mais la mort est toujours là, et l'histoire du monde, c'est peut-être aussi l'histoire justement de cette tshuva, c'est-à-dire de faire le tikkun olam et de faire que à la fin des temps, comme on dit, il n'y aura plus la mort, c'est-à-dire qu'on va faire une réparation.
Mais vous avez raison, la mort était là, mais parce que la tshuva qu'il a faite n'était pas complète. Et la tshuva a été complétée par Avraham Avinu, puis ensuite par Kabbalat HaTorah. Parce qu'à la Kabbalat HaTorah, la mort a disparu. On est redevenu immortel. Ça n'a pas duré parce qu'on a fait la faute du Vaudor, qui est de nouveau la même faute que Adam Harishon, de nouveau. Mais justement, si on fait une vraie tshuva complète, mais la tshuva complète pour Adam Harishon, il faut expliquer pourquoi, mais ça n'était complet qu'à partir du moment il y a eu un Abraham qui a déjà fait un grand travail, et puis ensuite il y a Yitzhak, Yaakov, il y a eu le Galout de Mitzrayim, etc. Tous ces tikkunim, etc., qui ont culminé avec la Kabbalat HaTorah. Donc, grâce à la Kabbalat HaTorah, la tshuva était complète. Et effectivement, il y a la mort qui était la trace, la dernière trace, si on veut, de la faute d'Adam Harishon le reste a été réparé par la tshuva qu'il a faite. Eh bien, voilà, c'est la, voilà, quand la tshuva était complète, ça a disparu. Les traces sont disparues. Mais ça a pris du temps.
Oui, mais ça veut dire que la tshuva, elle se fait sur plusieurs dorats.
La tshuva du Klal Yisrael, parce qu'Adam Harishon, c'est le monde entier. Donc, effectivement, il y a ceux qui pensent que c'est un théorie, Gilgulim, etc., où effectivement, la tshuva, elle va se faire sur plusieurs générations.
J'ai une autre question qui m'interpelle à propos de ce que vous avez amené donc justement sur la faute de Chava et du fait que il y a eu de la part du Nahash donc non pas de la part du Nahash pardon de la part de Chava et Adam qu'ils ont de ne pas toucher donc c'était en fin de compte vous avez dit c'était une barrière supplémentaire.
Oui.
C'est une barrière supplémentaire. Or, par ailleurs, on sait que les Chachamim ont mis pour protéger donc la Torah des barrières. Oui. Or, si on fait le parallèle entre cet exemple et que vous avez amené et les barrières,
excusez-moi, je peux vous répondre que la barrière elle aurait marché. Sauf que le Nahash, il ne lui a pas laissé le temps de dire qu'en vérité, ils n'avaient pas transgressé la barrière. Mais en fait, le problème des barrières est un problème très difficile.
Ouais.
Parce que si vous dites que c'est une barrière, alors il y a toujours les petits malins qui disent « Mais moi, je suis plus grand que la barrière, je n'ai pas besoin de la barrière, je passe par-dessus la barrière, je ne tomberai pas dans le trou. » Et puis si vous ne dites pas que c'est une barrière, alors vous trompez les gens, parce que les gens... C'est un mensonge, donc. Mais c'est ça le problème de la barrière. Tout le monde sait. On voit très bien ce que sont. Quand il y a des barrières, les gens disent pourquoi il y a des barrières ? Je suis assez grand pour pas tomber dans le trou. Non ? C'est un jeu. La barrière, c'est un jeu. Il faut jouer le jeu. Il y a une barrière, je sais que c'est une barrière. Je sais que. Si je franchissais la barrière, je ne serais pas dans le trou obligatoirement tout de suite. Mais il faut mettre la barrière parce qu'on ne sait jamais, etc. Donc je vais jouer le rôle, jouer le jeu. C'est ça le problème. Bon, on a aujourd'hui le problème des barrières sanitaires et autres.
Grave.
Effectivement, là aussi, on peut aussi dire, mais moi, je n'ai pas besoin de ce genre de barrière. Je suis assez grand. Je n'ai pas besoin qu'on... D'accord, je sais où je peux aller, où je ne peux pas aller, je sais prendre des mesures, etc. Ben non, ça ne marche pas.
Oui. Marav, j'ai une question.
Oui, allez-y.
J'ai une question par rapport à ce que... On a l'impression que la tshuva, vous dites que ça a précédé la création du monde, enfin des mondes, mais on a l'impression que la tshuva, c'est comme le paradigme de la Chachamim, en fait. C'est-à-dire que on voit bien que le Nahash, quand même, il est intrinsèque à la vie. Enfin, moi, j'ai l'impression que la première barrière dont on parle de toucher, c'est le désir de transgresser, et qu'à partir du moment où cette transgression n'a pas été dangereuse pour Avrava et après pour Adam Harishon, du coup, il pouvait aller plus loin. Et on a l'impression que c'est le libre arbitre qui est mis en jeu. Mais que dans cette balance du libre-arbitre, il y a quand même ce qui englobe c'est la tshuva, et que s'il n'y avait pas ce monde de tshuva, mais il serait, on faudrait plus qu'on fera plus de fautes que de bien. Donc on a l'impression que c'est quand même une sorte comme un père qui constamment, quand bien même son fils ferait des la plus grande chose, resterait son père et continuerait à avoir de la tendresse pour son fils, même dans les pires moments. On a l'impression que donc je me demande si quel rapport il y a entre la Chachamim et la tendresse et justement comme des fois appelé et la tshuva.
Votre exemple est très bon. On sait très bien que Hachem a créé le monde par chesed. C'est pour faire du bien. Hachem, il veut notre bien. Il veut pas. Il veut notre bien et alors il nous a donné des indications de comment est-ce qu'on arrive un autre bien, ou bien pour nous. Et après, il te dit, mais non, voilà, dans ce cas-là, tout, il faut aussi comprendre que même les sanctions et tout ça, c'est toujours pour le bien. Ça n'a pas de sens de penser autrement. Hachem veut notre bien, il ne veut pas notre mal.
Oui, mais... C'est...
Oui.
Non, ce que je voulais dire, c'est que... C'est que, d'une certaine façon, je comprends mieux pourquoi c'est évident. Ça me paraît important que ça préexiste. Au fait même que de donner le choix entre le bien et le mal. C'est-à-dire que c'est intrinsèque à l'homme que de se bagarrer entre le bien et le mal. Alors, la tchouva dit, d'une certaine façon, tu crois te bagarrer, mais tu n'as pas tous les éléments pour te bagarrer. Tu crois que tu fais un choix, mais non. Alors moi, je te laisse la possibilité de revenir sur ce qui t'a manqué pour effectuer le choix.
Enfin, il est clair que la tchouva, en général, bon, il y a une mitzvah de faire tchouva, mais dans la vie, pour que les gens fassent tchouva, il faut qu'il leur arrive quelque chose. Parce que ils sont sur un chemin et puis bon, bah, tout va bien, et je ne respecte pas, et il ne se passe rien du tout. Donc, si j'ai jamais l'occasion d'être confronté, si vous voulez, il y a toutes les chances qu'il ne fasse jamais de chouva. Ouais. On est obligé de penser qu'Hachem, je pense, que Hachem donne à chacun un certain nombre d'occasions de faire chouva, mais on ne les saisit pas toujours.
C'est quand même intéressant là. On arrive à être dans nos échanges parce que ici se dessinent quand même effectivement des liens. Alors je sais pas comment on peut les nommer entre la tchouva et le libre arbitre quand même. Quand j'entends mon ami Bernard ici effectivement. Bon, écoute, t'as pas tous les éléments pour voir clair, pour voir la réalité même de ta vie, t'es en train de te détruire. Donc bon, et voilà, je comprends en tant que père, entre guillemets bien sûr, père. Voilà, tu fais des bêtises, mais tu peux te récupérer parce que si tu savais, tu ferais pas. Mais si tu savais, tu aurais pas vraiment le libre arbitre, tu serais pas un homme libre. Alors on est sur la crête là-dessus. Hein. J'ai l'impression que vous n'en avez pas parlé, c'est vrai. C'est pas un thème que vous avez développé. Mais je sais pas, je sens quand même qu'on est là. On est dessus quand même. Même si je suis explicite.
Ben, moi, je n'ai pas bien compris.
Ouais. Voilà. Donc, en fait, si ce que je ressens à ce moment-là de nos échanges, c'est que on laisse la possibilité à l'homme qui s'est détruit, qui est en fait à côté de ses pompes depuis peut-être une grande partie de sa vie, de se récupérer.
Oui, tout à fait. La Gemara, elle dit très clairement que quelqu'un qui a fait tchouva le dernier jour de sa vie, voilà, c'est réussi. Il a réussi sa vie.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi je fais intervenir ici le libre arbitre, c'est que dans ces cas-là, s'il n'avait pas eu le libre arbitre, il ne se serait pas détruit, il ne se serait pas paumé.
Oui, mais dans ce cas-là, ça n'aurait aucun. Le problème, c'est qu'Hachem veut donner. Et on a déjà parlé, ça. S'il n'y a pas un travail à faire, auquel on va pouvoir appliquer la règle que tout travail mérite salaire. D'accord? Alors, le don que Hachem va nous faire, il va nous enfoncer parce qu'il nous donne alors qu'on n'a rien fait. Alors que maintenant, les choses se présentent d'une façon un peu plus acceptable pour nous. On a fait quelque chose. Bon, c'est pas terrible, hein, ce qu'on a fait par rapport à tout ce qu'il nous a donné. Mais en fait, on a fait quelque chose. On peut presque dire, on en a fait quelque chose de ce qu'il nous a donné. Et du coup, il va valider ça comme un salaire, comme un travail, et donc nous donner ce qu'il voulait nous donner de toute manière sous forme de salaire.
Pour éviter le
pain. Pour nous, c'est plus agréable. C'est le fameux Naama de Kisufa, le pain de la honte, bon, dont on a déjà parlé souvent. Voilà, ben, on va continuer la prochaine fois sur...